France Inter. Le 13-14 de France Inter, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. N'oubliez pas le bonheur. En Allemagne, des profs dispensent à leurs élèves des cours de bonheur. Initiative née de la pandémie de Covid et des dépressions qu'elle a suscitées. Reportage à suivre. La marche du monde aujourd'hui, c'est aussi l'épargne record des Français l'an dernier. Donald Trump qui veut rééquilibrer ses échanges avec l'Europe. Il avait déjà essayé il y a 8 ans sans succès. Trump qui lance aussi un plan inédit pour l'intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
500 milliards de dollars.
Oui, une avalanche de dollars sur l'IA Made in USA. L'enjeu, c'est de prendre l'avantage sur la Chine et sur l'Europe.
A tout de suite pour vos explications. À suivre encore, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, recadré ce matin par le parquet de Paris après l'interpellation d'un nouvel influenceur algérien. Faut-il facturer les secours en montagne? Et puis ces 300 bateaux de pêche hackés pendant un mois pour protéger les dauphins.
On est juste abandonné. On nous a diminué les quotas. Maintenant, on parle de même diminuer les zones de pêche. Aujourd'hui, on s'arrête pour les cétacés, mais ça va être quoi la suite?
Pêcheurs indemnisés mais frustrés, reportage en Loire-Atlantique. À partir de 13h30, une infatigable militante des forêts avec nous, Lucienne Haez. Elle a créé chez elle, dans le Morvan, le premier groupement citoyen forestier de France. À plus de 80 ans, elle se bat toujours contre les coupes rases. Elle se raconte dans un livre. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, c'est la France, le roi Trump et sa cour. Une image bien française, nous dira Eric Fotorino, du 1 Hebdo, juste avant 14h. C'est une chanson Gérard de Cortance, le chanteur cubain Benny Moré et Frédéric Pommier. Sans oublier, dans une vingtaine de minutes, les sorties cinéma de ce mercredi avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les guerres, les épidémies, les injustices, il nous faut parler des plaies du monde. Nous le faisons ici même chaque jour, mais elles ont un impact sur nos vies et sur notre morale. Voilà pourquoi en Allemagne, des cours de bonheur figurent désormais au programme de certains établissements scolaires. Cette matière a vu le jour après la crise du Covid pour recréer du lien entre les élèves. L'idée n'est pas de voir coûte que coûte la vie en rose, mais de parler de valeurs positives. Notre correspondant Sébastien Baer s'est rendu hier dans une classe de CM2 près de Dresde.
Ce matin-là, il est question de valeurs et de vertus. La professeure de bonheur, qui enseigne aussi l'allemand et le sport, note quelques exemples sur le tableau. Courage, savoir, sagesse, transcendance.
Il y a plein de mots que vous n'avez jamais entendus. Ce sont des mots très précieux.
Au troisième rang, Jonathan lève la main. L'enseignante vient de coller le mot « humanité » sur le tableau.
Si on voit par exemple un sans-abri et qu'on lui donne quelque chose, c'est de l'humanité. Et peut-être qu'un jour, c'est nous qui aurons besoin d'aide.
Mila, elle, veut parler d'injustice.
Par exemple, dans le foot, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Et je trouve ça injuste parce qu'ils font autant d'efforts l'un que l'autre.
Les élèves évoquent aussi la guerre en Ukraine, Donald Trump et leur petit tracas du quotidien. Pendant 90 minutes, la parole est libre. C'est ce qui plaît à Jonathan, 11 ans.
Par exemple, quand je pense à mon grand-père qui est décédé ou bien à mon déménagement ici, ça me rend parfois un peu triste. Mais le cours de bonheur m'aide vraiment parce qu'on peut parler tranquillement des choses qui nous inquiètent.
Julia Lissel, l'enseignante, dispense les cours de bonheur depuis 3 ans aux 3 classes de CM2 de l'établissement.
Il n'y a pas de programme scolaire pour cette matière et je n'ai pas besoin d'un manuel pour entrer en relation avec les enfants. Il n'y a pas de notes, pas de pression. Il faut juste du temps pour échanger. Et c'est ça la clé.
Pour la semaine prochaine, l'enseignante a retenu le mot personnalité. Chaque élève doit préparer la liste de ses 10 forces et faiblesses. Radebeul, Sébastien Baer, France Inter.
Et dans ce contexte anxiogène, guerre en Ukraine et au Proche-Orient, instabilité politique en France, les Français ont plus que jamais épargné l'an dernier. La Caisse des dépôts fait le bilan de 2024. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Les dépôts en banque ont dépassé les retraits de 21 milliards d'euros l'an dernier et cela rapporte les intérêts versés sur le livret A et sur le livret de développement durable et solidaire. Ces intérêts ont atteint plus de 16 milliards.
Oui, presque 17 milliards d'euros même au total rapportés et c'est un record. Montant global de ces deux comptes épargne au 31 décembre 2024. Plus de 600 milliards d'euros, plus haut niveau atteint. Ça représente une hausse de 7% par rapport à 2023. Les taux d'intérêt élevés de 3% y ont contribué. Autre avantage, des livrets défiscalisés. Le capital est garanti, souligne le directeur générale de la Caisse des dépôts. On peut déposer 100 euros et récupérer la même somme le soir même sans problème. À cela s'ajoute une rémunération plus forte que la hausse générale des prix. Les épargnants ont donc tous mécaniquement gagné de l'argent. Les Français ont d'ailleurs préféré mettre de côté plutôt que dépenser. Malgré le reflux de l'inflation, ils sont globalement restés prudents. Épargne dite de précaution, poussée par un sentiment d'incertitude sur l'avenir économique et politique du pays et l'instabilité géopolitique. Mais les livrets A et de développement durable seront-ils toujours attractifs cette année? Eh bien, on peut supposer que oui, car même si leurs taux d'intérêt vont baisser à 2,4% au 1er février prochain, ils restent supérieurs à l'inflation qui est aux alentours de 1%.
Merci Maria Melkurdi. Ce qui nous amène au sujet du moment pour l'économie européenne, ses exportations vont-elles pâtir de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump? En France, les secteurs du vin, du luxe et de l'automobile sont concernés. Trump a dit hier soir, je le cite, « L'Union européenne est très mauvaise pour nous, ils nous traitent très mal, ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, donc ils sont bons pour des droits de douane. » Fin de citation. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vérifions tout cela avec vous. Est-ce que c'est vrai, les Européens vendent plus aux Américains qu'ils n'achètent?
Eh bien, ça dépend de quelles données on prend. Déjà, pour les services, c'est faux. D'après les chiffres les plus récents de la Commission européenne, en 2022, l'UE a plus importé des États-Unis qu'exporté, notamment dans le domaine du numérique. En revanche, concernant les échanges de biens, oui, c'est vrai, les Américains avaient un déficit de 151 milliards d'euros parmi les produits que les 27 exportent le plus, médicaments et véhicules à moteur. Alors pourquoi cette situation? Tout simplement parce que les ménages américains consomment beaucoup plus certains biens que le pays ne produit. Si on rentre dans le détail, selon la Maison Blanche, le déficit de la balance commerciale des États-Unis se concentre sur 4 pays, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la France, notamment à cause des produits de luxe, boissons alcoolisées, produits laitiers qu'on exporte massivement. Les propos de Trump n'ont pas de sens, il n'y a pas d'affect, c'est la loi du marché, déclare un professeur d'économie avec qui je viens de m'entretenir. Mmh. Un exemple, d'après lui, si les voitures américaines ne trouvent pas preneur en Europe, c'est tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à notre goût et sont trop chères.
Cela étant dit, Luc, Donald Trump, lors de son premier passage à la Maison Blanche, disait déjà la même chose. Est-ce que la balance commerciale s'était alors rééquilibrée?
Eh bien non, la preuve en chiffres. Selon le CEPI, Centre d'études prospectives et d'informations internationales, sur les biens, le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne a augmenté de 51 milliards de dollars entre le début de son mandat en 2017 et la fin en 2021. Pourtant, le président a augmenté des droits de douane sur certains produits, mais ça n'a pas eu d'impact positif, notamment car dans le même temps, selon le CEPI, des ménages ont eu une exonération fiscale, ce qui a accru leur consommation et donc les besoins.
Luc Chemla pour ses explications. Un autre Donald Tusk, celui-là, le Premier ministre polonais qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne. Donald Tusk a appelé ce matin les Européens à investir massivement dans les dépenses militaires. Si l'Europe veut survivre, elle doit s'armer, dit-il devant le Parlement européen à Strasbourg. Là encore, l'Europe va devoir réagir face aux États-Unis. On parle de l'intelligence artificielle qui bouleverse en ce moment l'ensemble des secteurs d'activité. Donald Trump a donc annoncé la nuit dernière le lancement d'un projet jamais vu s'il se réalise. 500 milliards de dollars investis sur 4 ans par des groupes privés. C'est l'équivalent du PIB sur un an d'un pays comme la Belgique. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Le projet baptisé Stargate, à quoi va servir cet argent?
Eh bien, c'est un pari sur l'avenir. Quel modèle d'intelligence artificielle on va tous utiliser dans quelques années quand l'IA sera partout dans nos vies, que ce soit pour prendre rendez-vous avec un plombier, conduire une voiture autonome ou guider nos armes sur les champs de bataille. C'est ça l'enjeu et ça se joue aujourd'hui car les besoins en infrastructures sont colossaux, explique Laurent Daudet, co-président de Lighton. C'est la première start-up européenne d'IA générative cotée en bourse.
Le nerf de la guerre, c'est ces énormes data centers avec des ordinateurs, des gros serveurs sur lesquels il y a ces cartes graphiques, mais on en met des centaines de milliers. Et donc ça demande non seulement physiquement des énormes hangars, hein, mais aussi une puissance électrique absolument phénoménale.
Des centaines de milliers de puces graphiques, pour info, chaque puce coûte 30 000 dollars.
Et tout cela se fait évidemment avec le milliardaire Elon Musk?
Alors pas du tout. Ils n'ont pas l'argent, je le tiens de source sûre. C'est le tweet d'Elon Musk cette nuit, premier accro dans son contrat de mariage avec Trump. En fait, le patron de xAI est lancé dans une course avec OpenAI. Or, l'éditeur de ChatGPT fait partie du projet de Donald Trump et pas Elon Musk. Mmh. Et manifestement, il l'a mauvaise.
Ces chiffres, tout de même, Stéphane, donnent le tournis vu de France.
Oui, vous l'avez dit, 500 milliards. Pour vous faire une idée, le labo de recherche sur l'IA lancé en grande pompe par Xavier Niel, c'était il y a tout juste 2 ans, c'est 300 millions d'euros, presque 2000 fois moins. Pour Laurent Daudet, même à l'échelon européen, on ne peut pas suivre.
Les deux pays qui font le plus d'investissements, c'est les États-Unis et la Chine. C'est vrai que pour l'instant, les investissements annoncés en Europe de l'ordre de 2 milliards par an semblent assez ridicules par rapport à ça.
De quoi remobiliser tout le monde à 3 semaines du sommet IA qui se tient à Paris.
Stéphane Jourdain pour cet éclairage. Parmi les avertissements lancés ces derniers jours devant le spectacle de la prise de pouvoir de Trump à Washington, il y a celui du pape François qui lui a demandé de construire une société plus juste où il n'y a pas de place pour la haine, la discrimination ou l'exclusion. Fin de citation. Et c'est exactement le discours qu'a tenu hier devant le président américain l'évêque de Washington, Marianne Budd. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Elle a sermonné Trump en pleine messe.
Oui, elle s'appelle Marianne Budd, vous l'avez dit, c'est une femme évêque parce que nous sommes aux États-Unis et notamment à Washington, là où se trouve le primat de l'église anglicane, c'est-à-dire indépendante du pape. C'est ainsi par exemple qu'en Californie, il y a même une évêque homosexuel. Mais revenons à Washington où Marianne Budd s'est exprimée devant Trump en prenant la défense des immigrés qui perdent leurs impôts et des personnes LGBT qui ont peur de l'arrivée du nouveau président.
Des millions de gens ont placé leur confiance en vous. Au nom de Dieu, je vous demande d'être miséricordieux vis-à-vis de votre peuple qui a peur à présent. Il y a des enfants gays, lesbiens et trans, et des démocrates, des républicains et des familles indépendantes. Certains ont peur pour leur vie.
Voilà, des propos que Donald Trump a d'abord encaissés sans rien dire, avant de réagir véritablement quelques heures plus tard, c'était ce matin, en parlant de cet évêque qu'il qualifie de méchante par le ton, qui n'est ni convaincante ni intelligente, qui est une pseudo-évêque radicale de gauche qui le déteste et surtout à qui il a demandé de faire des excuses au public pour ses propos.
Bon, on entend, Nathanaël, cette voix critique, mais dans les urnes, l'électorat chrétien est favorable à Donald Trump.
Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, plus de 70% de la population est chrétienne, mais les catholiques ne sont pas majoritaires. Les églises protestantes rassemblent plus de monde, notamment les fameux évangélistes. Le ratio est en gros de 46% protestants, 20% catholiques. Si on veut affiner un petit peu plus, on peut dire que les évangélistes sont plutôt républicains et que les catholiques sont plutôt démocrates. Et si on veut encore affiner, il y a des clivages très importants sur des thèmes comme l'immigration ou l'avortement, tolérés chez les démocrates, combattus chez les républicains.
Nathanaël Charbonnier, nous parlions il y a un instant de l'inquiétude sur l'emploi en France. Plusieurs centaines de salariés d'entreprises de la chimie, de l'automobile et de la grande distribution se sont rassemblés ce matin devant le ministère de l'économie à Paris. Rassemblement à l'appel de la CGT. Étaient présents des salariés du chimiste Arkema dans l'Isère ou encore de Michelin et d'Auchan. Et puis on a appris ce matin que le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois était reparti à la baisse au quatrième trimestre 2024, moins 2,4%, chiffre donné par l'URSSAF. C'est assez rare. Un règlement de compte public ce matin entre d'un côté le ministre de l'Intérieur et de l'autre le parquet de Paris. En cause, l'interpellation d'un influenceur algérien. Information donnée par Bruno Retailleau. Selon lui, cet homme appelé sur le réseau social TikTok à commettre des actes violents sur le territoire français. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Mais le ministre a ensuite été rappelé à l'ordre par les magistrats du parquet.
Et oui, à propos du tweet de Bruno Retailleau, le parquet de Paris parle, je cite, d'une fuite tout à fait prématurée, mais surtout, le parquet précise que l'infraction n'est pas encore qualifiée et donc qu'il est bien prématuré de dire que l'influenceur algérien est soupçonné, vous l'avez dit, d'avoir appelé à commettre des actes violents en France. À ce stade, conclut le parquet de Paris, rien n'est retenu contre la personne concernée qui doit en outre suivre des soins. Le rappeur DJ n'a pas été placé en garde à vue. Il devrait être entendu demain, selon nos informations. C'est le pôle national de lutte contre la haine en ligne qui a été saisi de l'affaire après un signalement sur la plateforme Pharos de la police judiciaire. Dans plusieurs vidéos que nous avons pu consulter, Rafik Mézine, c'est son nom, a semble-t-il 3 comptes TikTok et il dit un peu tout et son contraire concernant la crise diplomatique franco algérienne actuelle. Il insulte surtout des Marocains et des TikTokers en Algérie.
Merci Emmanuel Leclerc. Le gouvernement qui cherche des pistes pour financer la branche dépendance de la sécurité sociale. Dimanche dernier, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, a évoqué l'idée de demander aux Français de travailler quelques heures de plus par an sans être rémunérés. En l'occurrence, 7 heures chaque année. C'était déjà dans le débat en novembre dernier. Les sénateurs avaient même voté cette mesure. Alors le gouvernement va-t-il la reprendre ? Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Marie, vous êtes à l'Élysée où se tenait ce matin le Conseil des ministres. À ce stade, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Non, le débat sur ces 7 heures de travail supplémentaire gratuit n'a pas encore été arbitré. La proposition de la ministre Vautrin est au stade de l'hypothèse, temporise la porte-parole du gouvernement Sophie Primas.
Ce n'est pas à ce stade la position officielle du gouvernement. La question du temps de travail est un vrai sujet qu'il faudra aborder. On verra dans les discussions parlementaires ce qu'il en sera sur ces 7 heures.
De même, hier, la ministre Astrid Panosyan-Bouvet avait lancé l'idée de taxer les retraités les plus aisés pour financer la protection sociale. Là encore, une suggestion que Matignon n'a pour l'instant pas validée.
C'est un sujet qui est ouvert devant nous, mais ce n'est pas la position du gouvernement à ce stade.
Alors, faut-il voir une cacophonie dans ce foisonnement d'idées ?
Au mot cacophonie, je préfère polyphonie. Le gouvernement est constitué de personnes qui sont des personnes d'expérience. Chacun a donc en tête des hypothèses. À la fin, c'est le Premier ministre et le Parlement qui trancheront.
Et c'est toute la stratégie de François Bayrou sur le budget. Maintenir une part de flou, s'abriter derrière le débat parlementaire et renvoyer à la version finale du budget qui sera examinée en commission mixte paritaire. Les négociations avec le groupe, avec les groupes se font désormais en coulisses et sans mise en scène, assure une ministre. François Bayrou qui cherche une méthode pour éviter la censure, ne pas rééditer l'échec de Michel Barnier qui s'était exposé aux pressions venues de tous côtés et au chantage du RN avant de chuter.
Voilà la polyphonie au gouvernement. Marie Mollet à l'Élysée avec les moyens techniques de Fabien Gosset, Emmanuel Macron qui après ce conseil reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz à l'Élysée. À un mois des législatives allemandes, ce sera l'un de leurs derniers tête-à-tête. Le président de la République qui va aussi devoir arbitrer la querelle au sujet de la loi sur la fin de vie. Son premier ministre François Bayrou veut la scinder en deux textes, l'un dédié aux soins palliatifs et l'autre à l'aide à mourir. Quand la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, elle est contre, elle craint que diviser ce texte ne signifie l'arrêt de toute discussion sur l'aide à mourir. Et c'est aussi le sentiment de Claire Toury, la présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, convention qui avait planché pendant des mois sur ce sujet.
On était un peu surpris, voire dubitatif, parce que finalement ça va un peu à rebours de ce que les citoyens de la Convention ont préconisé, puisque les citoyens de la Convention ont toujours beaucoup insisté sur un travail avec deux jambes. D'abord, le quoi qu'il en soit, il faut renforcer les soins palliatifs, et c'est extrêmement important. Et puis ensuite, la nécessité d'avancer sur le cadre de la fin de vie en France, mais de bien penser l'articulation des deux ensemble. C'est ça le projet collectif qui a été poussé par la Convention citoyenne sur la fin de vie.
Claire Toury ce matin sur France Info, à l'inverse. Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, lui salue le choix du Premier ministre.
Ce qui est certain, c'est que ça me paraît une mesure de sagesse. Nous insistons beaucoup sur les soins palliatifs et le développement des soins palliatifs en France, comme dans tous les pays, ça ne consiste pas seulement à ouvrir quelques lits supplémentaires, mais à insérer une culture des soins palliatifs dans la formation des médecins et des soignants de façon générale, depuis le point de départ de leur formation. Donc c'est une action de long terme qui mérite un véritable engagement. Et la question, la peur de la fin de vie qui habite tout le monde, elle se posera dans des termes très, très différents, elle se poserait dans des termes très différents si nous avions vraiment une prise en charge de la douleur dont on est capable aujourd'hui.
Éric de Moulin-Beaufort, interrogé par Ici Champagne-Ardenne. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte, lui, continue d'être étudié à l'Assemblée nationale. Son adoption ne fera pas de doute, mais hier soir, une disposition a été retoquée par les députés. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous étiez sur place à Mayotte il y a quelques jours. Cette mesure visait à faciliter les expropriations et c'était un levier important pour reconstruire l'archipel dévasté.
Oui, pour reconstruire, surtout construire de nouveaux logements qui manquent à Mayotte, eh bien il faut des terres. Il y en a peu, nous sommes sur une petite île et l'État n'est propriétaire que de 15% du foncier, estimation d'Estelle Youssoufa, qui est députée mahoraise. Pour le reste, eh bien, le cadastre est un casse-tête dans l'île. Selon le droit coutumier oral, ce sont les femmes qui héritent des terrains. Mais longtemps, les titres de propriété n'ont pas existé. Il y avait des concessions au village, des propriétés transmises de manière informelle, aujourd'hui difficilement traçables. Identifier les propriétaires tient parfois du jeu de piste. Réforme cadastrale quand même initiée au début des années 90. 90, elle est toujours en cours, une commission d'urgence foncière a recensé plusieurs milliers de titres de propriété pour lesquels il faut régler des questions d'indivision ou attribuer carrément ses propriétés. Les moyens administratifs manquent pour terminer ce travail rapidement. Je vous raconte ça pour faire comprendre que si l'État ne procède pas à des expropriations puis à des indemnisations a posteriori, eh bien, il ne pourra pas agir dans l'urgence comme la situation l'exige.
Béatrice Duguet, c'est parti pour un mois sans mer sur la côte atlantique. Les navires de pêche de plus de 8 mètres et équipés de filets pélagiques ont, comme l'an dernier, interdiction de naviguer. Tout cela pour protéger les dauphins. Cette mesure a permis l'an dernier de diviser les captures accidentelles et mortelles par 4. Alors, les pêcheurs sont indemnisés, mais c'est un coup dur. Illustration à la Turballe, en Loire-Atlantique. 7 bateaux sur 50 restent à quai. Et parmi ceux-là, celui de ce jeune patron pêcheur qu'a rencontré Hélène Roussel.
Le Nausicaa, son bateau amarré et immobilisé pour 4 longues semaines.
Il y aura toujours des échouages. Pourquoi ? Parce que le golfe de Gascogne, c'est aussi une autoroute maritime.
Romain Jouan, 33 ans, a du mal à digérer.
Que ce soit via les navires de commerce, via les navires militaires, des accidents arrivent avec tous ces bateaux-là. Nous, la pêche, on est infime dans le golfe de Gascogne.
D'autant plus rageant que ce jeune armateur a suivi les consignes et investi pour préserver les dauphins.
On nous a fait mettre des pingers, des répulsifs acoustiques pour les cétacés. Ben, on a investi pour rien.
Le chalut pélagique est donc interdit pendant un mois, car c'est une pêche en pleine eau, là où se trouvent les dauphins, et comme ils chassent les mêmes poissons que l'homme, ils peuvent finir prisonniers des filets. Romain pourrait très bien troquer son pélagique pour un chalut de fond, mais...
Moi, aujourd'hui, normalement, je devrais être en train de pêcher du merlu ou du chinchard. C'est moins énergivore pour mon bateau, et que le chalut, finalement... C'est...
Avec la fin des aides sur le gasoil, compter dans les 24 000 euros de carburant pour 15 jours de pêche.
C'est juste plus rentable, finalement, pour moi, d'être à terre et d'avoir ces bons dieux de subventions.
Vous avez 5 hommes à bord avec vous ?
Ouais, j'espère qu'ils vont prendre le temps d'attendre aussi un mois, parce que c'est aussi prendre le risque de perdre un équipage.
Avec en toile de fond comme un immense gâchis.
Bah déjà, on n'a plus de ministre délégué à la pêche. Nous, on est juste abandonnés. On nous a diminué les quotas. Maintenant, on parle de même diminuer les zones de pêche. Aujourd'hui, on s'arrête pour les cétacés. Mais ça va être quoi la suite ? Alors oui, bah, nous, marins, et puis moi, jeune, qui ai mon bateau depuis 2 ans, bah, on se battra parce qu'on veut qu'il y ait de la pêche en France.
Au total, en France, 300 bateaux seront ainsi immobilisés pendant un mois. 20 millions d'euros d'indemnités versées.
Reportage ici, Loire-Océan. Beaucoup de monde en montagne. En ce moment, la neige est au rendez-vous. Les imprudences aussi, comme chaque hiver. Un exemple, ces dernières semaines, un Toulousain a été récupéré dans les Hautes-Pyrénées par les secouristes, en short, en basket et vêtu d'un léger coupe-vent. D'où cette réflexion de François-Noël Buffet, c'est le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, qui se demande s'il ne faudrait pas facturer certains secours en montagne, les rendre payants pour éviter les abus. Bonjour Caroline Félix. Mais en fait, certains secours sont déjà payants.
Oui, si vous avez un accident sur un domaine skiable, vous êtes secouru par un pisteur. Entre 150 et 500 euros, selon la complexité de l'intervention et les communes. Davantage, si ce n'est pas à l'intérieur des pistes balisées, mais à proximité. Et la facture grimpe encore si vous avez besoin d'être élitreuillé.
Et si c'est en dehors des domaines skiables ?
C'est l'État qui prend en charge les secours. Et là, effectivement, c'est le principe de la gratuité qui s'applique le plus souvent. Par exemple, la semaine dernière, dans les Alpes, 8 skieurs ont appelé les secours coincés en hors-piste. Ils étaient partis malgré les avertissements. Ils n'ont pas payé leur rapatriement en hélicoptère, explique ici Pays de Savoie. Face à des usagers qui font du hors-piste, je cite, en ayant parfaitement connaissance d'une interdiction ou d'un danger, le ministre pose la question de cette gratuité. Mais hors de question de revenir dessus pour le président du club alpin de Toulouse, Bruno Serras, joint par ici Occitanie.
Si on commence à se positionner sur le fait que les secours seront payants, eh bien vous aurez tout un tas de personnes qui n'iront plus en montagne parce qu'ils n'auront pas les moyens de se payer, entre guillemets, les assurances qui vont permettre de couvrir les secours héliportés. Donc la gratuité des secours, la remettre en cause, c'est remettre aussi en cause l'attractivité de la montagne.
Et avant de se poser la question des secours en montagne, dit-il, il faut se poser la question de la gratuité des secours en général.
Caroline Félix, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Les films qu'il faut voir cette semaine, c'est avec Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On débute par un drame familial sur fond de montée de l'extrême droite. Ça s'appelle Jouer avec le feu.
Oui, l'intrigue se déroule en Moselle, dans un milieu prolétaire. Pierre, interprété par Vincent Lindon, est veuf. Ce cheminot syndiqué élève seul ses 2 fils adolescents. Mais l'aîné se rapproche dangereusement d'un groupuscule néo-nazi.
Ta vie, c'est pas l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris ? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne.
Tu peux rien contre moi.
J'ai l'impression
Jouer avec le feu et l'adaptation par les sœurs Coulin d'un roman de Laurent Petit-Mangin paru en 2020. Cette attirance d'une partie de la jeunesse pour l'extrême droite est évidemment un thème intéressant et d'actualité. Et les deux jeunes comédiens, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, sont excellents. Je suis moins convaincu par le choix de Vincent Lindon, très bon certes, mais dont la présence écrasante tente à banaliser tout le reste du projet pour en faire un Lindon movie de plus. Ce rôle de père courage bourru mais sensible a en tout cas séduit le jury du dernier festival de Venise qui lui a décerné le prix d'interprétation.
On poursuit avec La Voyageuse, un film coréen avec Isabelle Huppert.
Une nouvelle livraison du prolifique Hong Sang-soo qui retrouve pour la troisième fois la comédienne française, ici dans le rôle d'Iris, une prof particulière qui enseigne le français à des sud-coréennes.
With this practice, I want you to experience that this foreign language can really express something meaningful.
Comme souvent avec Hong Sang-soo, on est tour à tour désemparé et subjugué par cette errance aussi insolite que vaporeuse d'une femme lost in translation dans les beaux quartiers de Séoul. La Voyageuse est un film de dialogue, Isabelle Huppert passant son temps à discuter en buvant de l'alcool de riz fermenté. Les séquences très poétiques s'étirent avec classe dans un exercice de style qui fait rimer mélancolie avec fantaisie.
À l'affiche aussi cette semaine, Alexis, une comédie française au titre énigmatique. Jane Austen a gâché ma vie.
J'espère que vous serez inspiré ici.
Vous n'avez aucun nouveau message et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne.
Et si on allait faire un tour au pub ?
C'est un très joli portrait de femme que nous propose pour son premier long métrage la jeune réalisatrice Laura Piani. Agathe est une libraire aussi brillante que complexée, aussi bavarde que timide. Un jour, un collègue l'inscrit pour une résidence d'écriture en Angleterre dans la maison de famille de Jane Austen. Agathe est en effet une fan absolue de l'autrice de Raison et Sentiment et ce séjour britannique aux accents de mise en abîme pourrait bien l'aider à franchir un cap dans sa vie, même si tout ne fonctionne pas toujours parfaitement. Cette comédie romantique possède bien des atouts et mérite largement le détour.
Quoi d'autre en salle cette semaine, Alexis ?
Toute pour une, un film de KPDP signé Ouda Benyamina, la réalisatrice de Divine, Better Man, le biopic de Robbie Williams avec un singe dans le rôle de la pop star britannique, et Brûle le sang, un thriller niçois avec Nicolas Duvauchel et Denis Lavant.
Merci Alexis Demeyer. Je vous garde pour parler de l'une de vos passions, c'est le basket. Star française s'appelle Victor Wembanyama, on ne voit que lui cette semaine à Paris, alors à cause de sa taille évidemment 2m21, mais aussi parce qu'il est partout. Hier soir au défilé Louis Vuitton, c'est la Fashion Week pour inaugurer des terrains de basket également dans son département des Yvelines. Mais avant les deux matchs NBA programmés à Paris demain soir et samedi, il faut aussi s'entraîner. C'était le cas ce matin. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Entraînement de l'équipe des Spurs de Victor Wembanyama à la salle de Paris-Bercy, à laquelle une trentaine d'enfants ont été conviés. Ils ont eu de la chance.
Oui, ils ont vécu en fait ce que tout adolescent ou presque aujourd'hui en France rêve de vivre, hein, un moment privilégié avec Victor Wembanyama, alors même à une trentaine de mètres, hein, concentré sur son entraînement. Ces jeunes du lycée Jules Ferry et du collège Utrio, deux établissements parisiens, sont repartis quand même évidemment avec des photos et des vidéos de Wemby plein le téléphone, mais aussi et surtout des souvenirs privilégiés plein la tête.
Ouais, c'est incroyable, c'est autre chose que de voir un match. Et c'est une expérience unique en fait.
C'est vrai que ça fait bizarre. De loin, on le voit, on sent qu'il est plus grand, mais de près, ça doit être encore quelque chose.
Juste le fait qu'il soit aussi rapide avec une telle taille, bah, c'est impressionnant.
Je suis trop contente de vraiment être en VIP, avoir pas beaucoup de monde et tout ça. C'est génial.
Alors, pas beaucoup de monde, si on fait exception quand même des 250 journalistes autour du parquet. Jamais la NBA à Paris n'a attiré autant de médias. La salle de conférence de presse était pleine également, évidemment, pour ce retour de Victor Wembanyama à Paris, et particulièrement ici, à l'Accor Arena, cette salle où il a décroché l'argent avec l'équipe de France face aux États-Unis. C'était en finale des Jeux Olympiques.
Oui, il reste encore certaines décorations dans les couloirs, des JO. Et ouais, ça fait plaisir de revenir ici. Pas que des JO, bien sûr, les JO, c'était la dernière fois, mais... Même les fois où j'ai joué ici avant, c'est une salle qui me tient à cœur quand même.
Et qui sera pleine à craquer demain et samedi pour ces deux matchs de Victor Wembanyama et des Spurs face à Indiana. Tous les billets se sont arrachés en moins de 24 heures.
Plus de journalistes que de spectateurs donc ce matin pour cet entraînement. Merci Nicolas Perronnet. En direct de cette salle de Paris-Bercy, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14. La météo de Sébastien Léas, puis à 13h30, la militante écologiste Lucienne Haez avec nous. Elle se raconte dans un livre, elle y retrace son combat contre les coupes rases dans les forêts du Morvan. Elle a été l'une des premières dans notre pays à s'en indigner. 01 45 24 7000 pour être avec nous et pour discuter avec elle. 13h45, notre feuilleton, comment aider les collégiens à décrocher, non pas leur portable, mais décrocher de leur portable. C'est le dispositif Pause Numérique. Nous sommes dans un collège près de Reims. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, le calendrier vous inspire quelques réflexions sur notre démocratie.
Eh oui Jérôme, après l'investiture de Donald Trump lundi et mardi la commémoration de la mort de Louis XVI, je me suis interrogé sur les liaisons souvent dangereuses entre démocratie et monarchie.
Carambolage du calendrier, comme on dit. Et avec vous, Frédéric, un romancier.
Gérard de Cortanze, dont le nouveau livre « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer » vient de paraître chez Albin Michel, un roman consacré à Ernest Hemingway et avec lui, avec Gérard de Cortanze, oui. Pas avec Ernest Hemingway, non. C'est de la musique cubaine que nous écouterons, musique qui a fortement inspiré son écriture.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Un avenir radieux. C'est le roman Événement de Pierre Lemaître. Un voyage à Prague, des ruches en feu, un maître espion, une épouse éméchée, des pyjamas gris-perle, une bonne sœur en scooter, cette ordure de Macagne, un cœur fatigué, 3 kilos de sucre, une poussière mortelle, le chat Joseph, une nuit au boxon, le prix à payer, un traître haut placé et une grande, très grande histoire d'amour. Un avenir radieux, un roman flamboyant de Pierre Lemaître aux éditions Kalman-Lévy.
Un rêve à portée de main. Jusqu'au 31 janvier, profitez du meilleur des technologies Audi à bord de l'Audi A1 Sportback Design TFSI à partir de 290€ par mois avec un premier loyer de 2500€. N'hésitez plus. Rendez-vous dès maintenant sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le temps est de plus en plus perturbé.
Oui, on a basculé dans une séquence agitée avec des perturbations qui vont se succéder dans les prochains jours et une ambiance bien ventée. Une perturbation s'est d'ailleurs déjà infiltrée sur le pays. Entre le Grand Est, l'Auvergne et les Alpes du Nord, les nuages dominent cet après-midi, mais laissent quand même passer quelques éclaircies. Les petites pluies vont aussi avoir tendance à s'estomper. En revanche, des pluies régulières circuleront entre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, atteignant le Poitou-Charentes et la Touraine cet après-midi, puis l'Île-de-France en fin de journée. À l'arrière de cette perturbation, des éclaircies reviendront par le Finistère. Les nuages, eux, vont s'accumuler entre l'Aquitaine et les frontières belges, mais les pluies seront encore faibles et intermittentes cet après-midi. Et puis le temps sera aussi très nuageux sur les régions méditerranéennes, avec encore des passages pluvieux, en particulier sur le Languedoc et entre la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. La hausse des températures amorcée lundi se poursuit. Les maximales seront même plutôt douces pour la saison sur les régions du Sud, avec 10 à 17 degrés pour cet après-midi. Autre signe de cette douceur, les limites pluie-neige qui sont assez élevées, 1800 mètres sur les Alpes du Sud et 2000 mètres sur les Pyrénées. Et puis sur les régions de la moitié nord, les maximales seront plus voisines des normales de saison, avec 5 à 9 degrés cet après-midi.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Lucienne Haez.
Bonjour France Inter, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous Lucienne, en direct de Dijon. Je remercie les collègues d'ici Bourgogne qui vous permettent d'être avec nous. Nous voulions vous donner la parole parce que à l'heure où les préoccupations environnementales semblent parfois passer au second plan, vous, vous tenez le cap à 82 ans, c'est bien ça Lucienne ?
83
maintenant, et vous venez de publier ce livre qui retrace votre parcours de militante écologiste, comment vous êtes passée de l'amoureuse des arbres à la protectrice des forêts, de Lucienne Haez à Lulu du Morvan, c'est votre surnom. « Mon combat pour des forêts vivantes », c'est le titre de votre livre, votre combat contre ce qu'on appelle les coupes rases, et dont on va parler ensemble et avec les auditeurs de France Inter, qui nous appellent, ils sont déjà nombreux à le faire, 01 45 24 7000. Pour tous ceux qui veulent vous interroger, qui se reconnaissent peut-être dans votre parcours, vous pouvez également passer via l'application France Inter. Lucienne Haez, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire cette région du Morvan dans laquelle vous avez grandi et dans laquelle vous vivez, pour tous ceux qui ne la connaissent pas.
Mais le Morvan, c'est une région exceptionnelle avec des forêts, des rivières, des lacs. Il y a des monts, des collines et le Morvan est très boisé. avec de très belles forêts. Qui étaient très belles forêts? Il y en a encore de très belles forêts. Moi, j'invite tout le monde à venir en Morvan pour voir encore ces collines boisées magnifiques en automne comme au printemps. Et donc, ce Morvan, moi, je l'ai dans la peau depuis ma naissance puisque je suis née en Morvan. Et la forêt a toujours été pour moi, ma raison de vivre et d'aimer la nature.
Une maison aussi, on pourrait dire ça, Lucienne Haez, où vous avez pu parfois trouver refuge?
Oui, une maison, effectivement. Parce que, voyez, moi, je voudrais commencer aussi par dire aux auditeurs, mais allez en forêt, allez aimer les arbres. Quand vous êtes dans ce milieu exceptionnel, en fait, vos soucis s'estompent. Vous voyez ce qui se passe, vous sentez l'odeur âcre de la forêt, vous entendez le murmure des arbres, et on oublie tout, et vous vous collez l'oreille contre un tronc d'arbre, et il vous donne son énergie, c'est formidable, quoi. C'est un outil pour vivre. Moi, je ne pourrais pas vivre sans les arbres et sans la forêt.
Quelles sont les essences, quels sont les arbres auxquels vous êtes le plus attaché, Lucienne?
Moi, je suis attachée aux essences autochtones qu'on a toujours connues dans le Morvan et qu'on connaît encore. Le chêne, l'érable, l'hêtre, il y a tout le châtaignier aussi, qui est une essence très adaptée au Morvan. Donc, tout ça en mélange, c'est formidable, quoi. Il y a aussi maintenant, bien sûr, on peut parler aussi qu'on a beaucoup de Douglas. Je tiens à dire que c'est pas l'essence elle-même du Douglas qu'on critique, qui n'est pas une essence autochtone, hein, mais qui était importée, mais qui fait aussi un très bel arbre. Mais franchement, les essences feuillues, on ne peut pas abandonner ça, quoi.
On va en parler ensemble. On va parler de ce combat ensemble. Un dernier mot de votre enfance, Lucienne Haez. C'est dans cette forêt, hein, la forêt de Montmain, tout près d'Autun, dans le Morvan, que vous avez grandi. Votre maman était lavandière, votre papa ouvrier. Ce sont aussi les souvenirs avec votre famille, avec votre père, cette forêt.
Ah ben bien sûr, parce que mon père m'emmenait, moi, toute gamine, il m'emmenait en forêt, puisqu'on se chauffait avec le bois de la forêt de Montmain. Et donc, très tôt le matin, il m'emmenait dans cette forêt. Vous savez, c'est en hauteur, quoi, le village de Coire est en hauteur par rapport à Autun. Et quand on arrivait sur les dessus, il y avait le brouillard qui était au-dessus de la ville d'Autun. Et moi, j'avais l'impression d'être dans le ciel, quoi. C'était, et on voyait les animaux. De temps en temps, on voyait une biche, un chevreuil, on voyait des bêtes comme ça. Et c'était formidable, ce silence. Parce qu'en fait, on dit ce silence, mais la forêt, elle bouge, elle vit. Et on ne peut pas dire qu'il y a un silence total comme on a quand on est fermé dans une pièce, quoi, dans la forêt.
Alors, si vous êtes aussi attaché à cette forêt, Lucienne Haez, c'est parce qu'elle vous rappelle votre enfance, vous venez de nous le dire, mais c'est peut-être aussi parce que vous l'avez quittée pendant plusieurs années, votre mariage, la vie vous a conduit ailleurs en France. Et puis, vous êtes revenu à la fin des années 80, et là, sur une plus longue durée. Et vous avez découvert à ce moment-là la pratique des coupes rases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Eh bien, en fait, oui, moi, je faisais beaucoup de randonnées quand je suis revenue et de vélo. Et vous passez sur une départementale, une petite ville, une petite route. Et de plus en plus, je découvrais la colline qui commençait à être déboisée de plus en plus. Alors, une coupe rase, c'est le sol qui est complètement mis à nu. On passe avec du gros matériel et on rase tout. Les petits, les gros, les moyens, le mélange, la régénération naturelle. Et le sol est à nu. Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé sur ce terrain. Et donc, pour moi, ça m'a choqué. Je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'étais quand même un peu démunie parce que j'étais pas encore militante au sein d'Autamont Écologie.
L'association que vous avez rejoint après?
Voilà, quand elle a été créée en 1989. Et donc, toute seule, j'ai essayé, j'ai écrit à des élus, j'avais écrit à Raymond Barre, qui était ministre, premier ministre. Mais bien entendu, j'avais pas eu de réponse pour dénoncer. Mais ça paraissait, c'était très difficile parce que on disait, oh, ben oui, Un Douglas, c'est un arbre, ou un épicéa, c'est un arbre, donc quel est le problème? Mais remplacer une colline mélangée avec des feuillus mélangés et par des monocultures, comme on le voit de Douglas de plus en plus, c'est choquant, c'est terrible, quoi. C'est pas une forêt. En fait, on ratiboise de la forêt pour faire de la liniculture. On peut pas appeler ça des plantations artificielles. On peut pas appeler ça de la forêt.
Alors vous vous mobilisez avec d'autres, mais vous vous rendez compte aussi des limites de ce combat, parce que à chaque fois on vous répond, vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas comprendre l'économie forestière. Alors vous décidez avec d'autres de créer le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan. Ça va être le premier groupement français. Vous allez racheter des forêts, c'est ça Lucienne?
Voilà, exactement. Mais oui, vous avez bien décrit, effectivement, on me disait, mais madame, vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas comprendre. On me disait aussi, c'est bien joli, vous critiquez ce qui se passe en forêt, mais qu'est-ce que vous proposez? Donc ça, cette phrase-là, elle a eu un impact formidable sur moi, parce que je me suis dit, c'est vrai, je n'étais pas très compétente, je reconnais, je ne connaissais pas vraiment les milieux, la forêt, tout ça. Je me suis dit, en fait, les adversaires, ils ont raison.
Il faut bosser.
Si je veux que ça avance, et si je veux être crédible, et si je veux que mes propositions, on en tienne compte, il faut que tu bosses. Donc j'ai beaucoup bossé sur la forêt, après avec notamment Vos Écologies, et le groupement forestier, si vous voulez, ça m'a permis aussi de crédibiliser ce que je proposais. Parce qu'en plus, bien joli le discours, on dit, oh ben oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire là si vous faisiez ça. Mais là, en fait, le groupement forestier qu'on a créé, ça permet de voir sur le terrain qu'on peut exploiter la forêt et en tirer des bénéfices et sans faire de coupes rases, sans tout ratiboiser, quoi. En plus, il y a des intérêts de faire une sylviculture de cette manière-là, pas que pour le paysage, parce que le paysage, pour moi, c'est ce qu'il y a de moins grave par rapport à l'exploitation intensive de la forêt. Quand vous ratiboisez une forêt, il y a des conséquences sur l'appauvrissement des sols, vous avez l'eau dans le Morvan, vous avez beaucoup de rivières, de sources, tout au milieu des forêts, tout ça disparaît. Vous avez aussi maintenant les gaz à effet de serre, l'impact climatique. Donc il y a un bilan carbone qui est négatif actuellement en France par rapport à ça. Donc si vous voulez, tout ça pour la forêt. Pour moi, le groupement forestier, c'est un outil formidable de montrer que ça peut fonctionner, qu'on a des outils et qu'on n'est pas tout seul. Il y a une association ProSylva de propriétaires qui font ce type de gestion.
Voilà. Je voudrais qu'on donne la parole aux nombreux auditeurs qui nous appellent, Lucienne Haez, et qui veulent vous poser des questions. C'est Laure qui nous appelle du Jura. Bonjour Laure.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi, je voulais juste remercier Lucienne pour son exemple, parce que grâce à elle, il y a quand même beaucoup de groupements forestiers qui se sont créés dans le Morvan, mais pas que. Moi, j'appelle du Jura, dans le Jura, grâce à elle et aux émissions qui ont été faites sur son travail. On a pu créer Forêt Alternative du Jura, et on espère bien créer un groupement forestier citoyen d'ici peu. Voilà.
Merci Laure pour votre appel. Lucienne Haez, quand on vous dit que la forêt c'est un atout économique pour des régions comme le Jura, où habite Laure, ou comme chez vous dans le Morvan, où il y a peu d'activités, donc on a besoin d'exploiter la forêt, donc on a besoin de couper, qu'est-ce que vous dites?
Mais je dis que effectivement on a besoin d'exploiter la forêt, parce que de toute façon on est tous utilisateurs de bois. De dire qu'on va mettre toutes les forêts sous cloche, ça serait idiot. Mais on peut exploiter et avoir une rentabilité économique beaucoup plus performante en faisant pas de coupes rases. Vous savez, simplement à comprendre, vous avez vous raisonnez la forêt par parcelle. Vous ratiboisez tout, vous vendez du bois, mais combien de temps après il faut reconstituer votre peuplement forestier? Alors que quand vous faites une gestion par pied d'arbre, vous sélectionnez des arbres et vous coupez tous les 8 à 10 ans dans votre forêt. Vous avez un revenu sans arrêt. Vous avez toujours votre forêt formidable et vous capitalisez des très beaux arbres, des très gros arbres qui se vendent très très bien.
Autre région forestière, la Sologne, d'où nous appelle Christian. Bonjour Christian.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Lucienne. Alors, il y a un problème. Lucienne va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Où l'on pratique des coupes rases avec de très gros arbres qui sont réduits. On s'en sert pour faire des granulés, pour les peler, pour les granulés
pour se chauffer,
de poêle à bois. Alors, ça se passe comment? En deux mots.
Oui, en deux mots, on a très très peu de temps.
Un tracteur avec une lame de scie à la base qui, en quelques secondes, vous coupe n'importe quel arbre, même les plus gros. Vous avez des espèces de bras qui sont comme des pinces qui vont ébrancher l'arbre, l'écorcer, ça se passe très rapidement. Ces arbres sont emmenés par les entrepreneurs dans de grandes usines où les arbres sont transformés en pelés et on a des coupes rases et les entrepreneurs soit mentent aux gens qui leur vendent les parcelles en disant on abattra tous les plus.
Christian, je suis obligé de vous couper, on a compris l'esprit, mais il nous reste très peu de temps, on a beaucoup d'appels. Lucienne Aez, sur cette question de la fabrication des granulés à bois.
Oui, ben justement, c'est un vrai problème parce qu'on coupe effectivement de très beaux arbres, on coupe la forêt pour faire du bois énergie, on appelle. Et donc, ça va dans des usines qui font de... En plus, vous avez l'exemple à Gardanne actuellement, qui utilise énormément, des tonnes et des tonnes de bois, des granulés de bois énergie pour faire de l'électricité. C'est un non-sens formidable et extraordinaire, cette chose-là, quoi. Et donc... Le bois énergie, c'est un vrai problème parce qu'il faut savoir que le bois, il est plus polluant, même actuellement, que le gaz, quoi. Mmh. Donc, transformer des forêts, couper des forêts pour faire de l'électricité, ben non, voilà.
Vous chauffez au bois, vous, Lucienne ?
Alors, le chauffage au bois, moi, je me chauffe avec du bois en récupérant le bois dans la forêt qui tombe, des arbres qui sont tombés ou des haies ou pas. C'est pas vraiment individuellement, c'est pas critiquer les gens qui vont se chauffer au bois, qui font attention, qui ont une installation qui est adéquate. Ce qui a critiqué, c'est ces installations énormes qu'on crée de plus en plus pour utiliser du bois pour faire de l'électricité ou autre.
Question d'Evelyne, très rapidement, elle nous appelle de Fontenay-Rose et elle veut savoir comment on fait pour créer une association comme la vôtre.
Oh ben écoutez, moi je pense qu'il faut aller sur les sites d'Otamorvan Écologie et le site du groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan et vous contacter les organismes, on vous donnera la...
Et vous donnera la marche à suivre. Voilà Evelyne de Fontenay-aux-Roses à sa réponse. Merci infiniment, Lucienne Aez, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le 13-14.
J'aurais juste un mot à dire, si j'ai encore quelque chose, qu'en fait, il y a le plan bois qui finance
la destruction des forêts. On n'a plus de temps, Lucienne Aez, mais tout est dans le livre « Mon combat pour des forêts vivantes ».
Voilà. Et le chemin Lulu du Morvan, créé par... c'est un espoir que les jeunes vont vers la forêt, aiment les arbres. Et je conseille d'aller à Autun voir le chemin Lulu du Morvan, créé par l'école La Rue Bouteillée. Voilà,
L'appel est passé.
Merci.
C'est aux éditions Stock. Il faut aussi qu'on remercie Jean et Françoise, Lucienne. C'est grâce à eux que vous êtes arrivés jusqu'à Dijon.
Vos
amis qui vous ont permis de venir jusqu'à Dijon. Merci infiniment. Oui. 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous sommes depuis le début de la semaine avec des collégiens en pause numérique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de déposer leur téléphone portable dans un casier avant d'entrer en classe. Expérimentation menée notamment au collège du Mont d'Or à Saint-Thierry au nord de Reims, et cette mesure est l'occasion d'ouvrir le débat entre les élèves et leurs profs.
Alors, qui n'a pas de téléphone portable ? Moi. Alors, ce matin, ils sont 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Qui a un téléphone ? D'accord.
Chez moi, je le mets.
Il est où le téléphone en ce moment ? Allez, Marius, il est où ton téléphone ?
À la salle à manger, je ne l'emporte jamais au collège.
D'accord. Bon. Dorian, il est où ?
Il est chez moi.
Et Léa ?
Dans ma chambre.
Dans ta chambre, Pauline ?
Sur mon lit.
D'accord. Et toi, Bénédicte ?
Moi, quand je ne l'oublie pas, il est dans mon casier. Des fois, je l'oublie chez moi.
Je m'appelle Dominique Richer, je suis professeure de français au Collège du Mont d'Or et là ce sont les élèves de 5e B, donc un groupe de 19 élèves. Moi j'aimerais bien savoir, quand vous avez eu votre téléphone là, est-ce que vos parents ils vous ont montré ce qu'on pouvait faire dessus et ce qu'il ne fallait pas faire? Est-ce qu'ils vous ont mis en garde?
Par exemple, Snap, Instagram et tout ça, j'ai pas le droit parce qu'ils disent que ça me sert à rien, puis que vu qu'il y a c'est 13 ans les réseaux sociaux, et que j'ai que 12 ans, puis que des fois il y a des gens, ça sert un peu à rien, puis il y a des gens qui font des choses pas très bien dessus, etc. Puis ils veulent pas, voilà.
Tous les profs nous essayent de nous protéger de ça, les parents, certains quand même, veulent nous protéger, nous préserver de ça. Quand on prend quelqu'un de mon âge qui s'ennuie, qu'on lui donne un téléphone, on s'ennuie plus. Sauf que l'ennui, c'est important pour créer, pour... Les gens, maintenant, sont en manque de créativité. On me dit tout le temps, comment tu fais pour créer? Sauf qu'en fait, eux, quand je les entends, ils viennent tout chercher sur le téléphone. Si on s'ennuie plus, on n'imagine plus.
Et toi, Arthur?
Par exemple, il y a un groupe classe sur le WhatsApp et ça déborde vite. Enfin, on me le raconte que ça déborde vite sur des insultes, des trucs comme ça.
Là, il y a un groupe classe?
Oui, il y a un groupe classe sur WhatsApp. Et même, il y a même un groupe filles.
Lui, il est au courant de tout.
Et vous êtes combien sur le groupe classe?
Minimum 13, je dirais. Je suis dedans, mais genre, je vais dessus, je vois que j'ai reçu les messages. Je vais tout en bas pour faire style que j'ai lu et puis je laisse dérouler.
Mais il se dit quoi sur ce groupe classe?
Bah, il demande les devoirs et puis il demande si tout le monde va bien. Enfin,
Quand il demande les devoirs, il demande ce qu'il y a à faire ou une photo du travail?
Moitié-moitié.
Les réponses du DM de maths?
Par exemple, oui. Oh, les réponses du DM de maths. Surtout quand ils n'ont pas du tout envie de réfléchir pour leurs devoirs, c'est. Je peux avoir si? Bah, vas-y, enfin, c'est envoyé. Puis pour les leçons à rattraper aussi.
Alors moi j'ai pas de téléphone portable, j'en aurai un à 13 ans, mais dans la rue il y a beaucoup de gens avec le téléphone portable, aussi par exemple pour aller sur Pronote, il y en a qui utilisent leur téléphone pour voir les cours, donc j'ai l'impression que c'est le portable qui fait tourner le monde.
Achille, ça te manque pas de ne pas avoir de téléphone portable quand la plupart de tes copains en ont?
Si.
Tu dis quoi à tes parents?
Ben, je leur ai réclamé, mais ils veulent pas.
Pourquoi ça te manque?
Ben, parce que du coup, je me sens différent.
Différent, c'est-à-dire ça t'empêche de faire des choses, de communiquer?
Non, je me sens juste différent.
Victor Vasseur pour ce feuilleton, réalisation Stéphane Ronxin, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, 13h51 le mercredi avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Eric, Donald Trump a mis en scène sa prise de pouvoir lundi avec une cour de milliardaires réunis autour de lui et des décrets signés devant les caméras. Et cela vous a rappelé qu'en France aussi, le président aime se prendre pour un roi.
Oui, vous avez raison, Jérôme Hess. L'intronisation d'un monarque très peu républicain lundi à la Maison-Blanche, investi sous la rotonde du Capitole, vous vous souvenez, tout un symbole, car c'est ce lieu qu'en janvier 2021, ses partisans avaient violemment pris d'assaut pour contester la victoire de Joe Biden, ou est-ce encore le souvenir d'un monarque guillotiné le 21 janvier 1793, j'ai nommé Louis XVI, sur la place de la Concorde? Toujours est-il que je me suis laissé envahir par quelques royales pensées qui m'ont ramené quelques 10 années en arrière. En juillet 2015, exactement pour le 1 Hebdo, nous étions 3 à nous présenter à Bercy pour interroger le ministre de l'économie, d'alors un certain Emmanuel Macron. Votre serviteur, si je file la métaphore monarchique, était accompagné de mon regretté comparse du 1, Laurent Grelle-Samer, et puisqu'on nous rabâchait que le pas encore candidat officiel se piquait de philosophie, Adèle Van Rett avait complété notre équipage.
Et vous n'avez pas été déçu?
Je dois dire que non, Jérôme, vous voyez comme le temps passe et parfois lasse. Un dialogue assez profond et riche s'était engagé sur l'apport du philosophe Paul Ricoeur à la pensée du futur président. Ricoeur, précisait-il, m'a fait comprendre que l'exigence du quotidien est d'accepter le geste imparfait. Disons qu'en matière d'imperfection politique, nous avons été servis. Mais c'est sur un terrain alors tout à fait inattendu qu'Emmanuel Macron nous surprit. Je veux parler de sa référence appuyée au régime monarchique qui, à la parution, avait déclenché de nombreux commentaires en France comme à l'étranger sur les penchants du locataire de Bercy pour la royauté. C'était surinterpréter son propos sans doute, mais il n'est pas inutile d'en rappeler la teneur. Il y a dans le fonctionnement démocratique, un absent, affirmait le ministre Macron. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple n'a pas voulu la mort. La terreur a causé un vide émotionnel et imaginaire, le roi n'était plus là. On a essayé plus tard de réinvestir ce vide, ce sont les moments napoléoniens et gaulliens. Après De Gaulle, disait-il, la normalisation de la figure présidentielle a installé un vide au cœur de la vie politique. Et j'en arrive à cette phrase mémorable. Ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction.
Est-ce à dire, Eric, que les peuples auraient besoin, sinon de monarques, en tout cas d'hommes forts?
La démocratie a d'abord besoin, Jérôme, de dialogue. Et c'est ce manque de concertation qui a probablement accentué l'image d'un président enfermé dans sa tour d'ivoire, n'écoutant que lui-même et peu attentif aux autres, malgré le grand débat qu'il organisa après le mouvement des Gilets jaunes ou les conventions citoyennes sur le climat ou sur la fin de vie. Mais avec la réélection du Donald, comme on l'appelle outre-Atlantique, comme avec les victoires de plusieurs dirigeants autoritaires en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, sans parler du long règne de Vladimir Poutine en Russie, force est de constater que dans un monde de plus en plus complexe et imprévisible, les peuples sont rassurés d'être représentés par des hommes à poigne, surtout des hommes, excepté Madame Mélanie. Force aussi est de constater qu'en France et dans notre vieille Europe, trop souvent, si roi il y a, le roi est nu.
Et donc à la une du 1 cette semaine, Eric ?
Eh bien, Trump à la conquête du monde, point d'interrogation, avec un dessin qui rappelle un peu un certain dictateur chaplinien.
Merci Eric Fotorino. De C'est la France à C'est une chanson. C'est l'écrivain Gérard de Cortanze que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Gérard de Cortanze, lauréat d'une dizaine de prix, dont le Renaudot pour son roman Assam. Il a publié plus de 90 livres et le dernier vient de paraître chez Albin Michel. Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer, le récit des derniers mois d'Ernest Hemingway. Lorsque, vieillissant et ne parvenant plus à écrire, il doit quitter Cuba, où il a vécu pendant plus de 20 ans. Et c'est justement de la musique cubaine que Gérard de Cortanze a souhaité que l'on écoute. Un morceau de Benny Moré qu'il a découvert dans les années 70.
Il se trouve qu'à cette époque, mes amis, mais mes amis intimes, c'était Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Severo Sardou, qui était un Cubain. Et on écoutait beaucoup, beaucoup de musique. On buvait beaucoup, on fumait, on dansait. Et ce sont ces gens-là qui, par le biais de la musique, m'ont conduit à l'écriture. Vraiment, enfin, moi, le fils d'émigrés italiens, je suis devenu écrivain par le biais de ces amitiés et de cette musique latino-américaine, qui est extraordinaire, parce que la musique de Benny Moré, pour y venir, c'est ce qu'on appelle le son montuno. Et le son montuno, c'est la sonorité qui vient de la montagne. Et c'est une musique très répétitive et qui est toujours très très liée à la danse. Et je trouve que dans la musique et dans la variété latino-américaine, il y a tellement de choses sur la réalité de la vie. Et c'est ça qui m'intéresse.
Frédéric, ce morceau choisi par Gérard de Cortanze s'appelle « Que bueno baila usted ».
Traduction, Jérôme, que vous dansez bien.
Je vous remercie.
C'est vrai. Et on doit donc cette chanson à Benny Moré, que l'on surnommait le barbare du mambo.
C'était un grand danseur, c'était un grand chanteur. Il apportait une joie de vivre extraordinaire au peuple cubain. Pendant la dictature, après l'arrivée de Castro, qui était une autre forme de dictature, et c'est une narration qui traverse une histoire. Et ça m'a toujours intéressé. De créer des personnages et d'essayer de les situer par rapport au destin de l'histoire qui va les traverser. Comment ces gens vivent cette réalité et cette histoire qui leur échappe.
Est-ce que vous vous sentez un peu cubain ?
Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Sous quels aspects ?
La musique, la nourriture, la danse, la joie de vivre, la résilience, la force de ce peuple qui traverse de réelles tornades. Et puis cette situation politique terrible depuis des années, on se demande comment ils vont sortir, quand ils en sortiront. Il n'y a aucun président des États-Unis qui, année après année, n'assouplit le blocus. Enfin, j'ai l'impression comment dire, d'avoir le même discours que j'avais dans les années 70 quand Castro était là. On est en train de tuer un peuple et une civilisation.
Est-ce que ça veut dire que quand il vous arrive d'entendre cette chanson-là, elle vous ramène à vos années 70-80, quand vous étiez avec ses amis intimes ?
C'est certain. Je me retrouve dans ces soirées où on picolait, où on dansait, où la vie s'offrait devant nous, joyeuse, triste, nostalgique, mais le monde nous appartenait. Moi, ça me transporte dans ces années-là, mais tout de suite aussi à Cuba, c'est-à-dire tel plat, telle musique, telle promenade, tel parfum, telle sensation, on y est, enfin voilà, c'est bien sûr.
Donc cette chanson, finalement, pour vous, elle porte un double voyage, un voyage vers Cuba et un voyage vers 25 ans.
Oui, et vers mon écriture. Pour moi, c'est le moment où j'ai su que je serais écrivain et j'ai su comment j'écrirais, c'est-à-dire comment j'essaierais de rendre compte de la réalité du monde et de la réalité qui est la mienne.
Que bueno baila usted, Benny Moré. C'était donc Frédéric, le choix de Gérard de Cortance.
Dont le dernier roman est sorti chez Albin Michel. Très beau titre. Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Nous sommes au-dessous du volcan avec vous.
Oui, on va parler des conséquences des grandes éruptions au cours de l'histoire.
A tout de suite.